Alors maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter donc Sandrine Codis, pardon, je me disais où il ne faut pas, qui est chez nous depuis déjà un an, 2017. Voilà, alors pour présenter Sandrine, donc ça fait pas très longtemps qu'elle est là, donc ça fait pas tellement longtemps que nous nous connaissons, nous nous sommes croisés, mais on n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter. Simplement, je dirais qu'elle a quand même, elle est là depuis un certain temps, puisque entre 2011 et 2015, elle a effectué sa thèse ici sous la direction de Christophe Pichon. Il est là, Christophe ? Il est là, Christophe Pichon. Voilà. Une thèse donc sur les amas de galaxies, je pense que c'est aussi le sujet de son propos ce soir. Et donc thèse qui a été soutenue en 2015. À la suite de cela, eh bien, comme la plupart des thésards, quand on passe sa thèse, eh bien, on prend son bâton et on va s'exprimer ailleurs. On fait encore ses preuves, une fois de plus, pendant un an ou deux dans d'autres laboratoires. Pour savoir si l'herbe est plus verte et pour acquérir des compétences complémentaires, rencontrer, avoir des relations, enfin voilà, se faire connaître. 2015-2017, donc elle effectue un postdoc à l'Université de Toronto. Et ensuite, elle a le bonheur de revenir en 2017 et de rentrer au CNRS comme chargée de recherche à l'Institut d'astrophysique où elle se trouve maintenant. Alors, quand même, c'est intéressant de savoir que Sandrine Codis a été lauréate du prix MERAC 2018. Voilà, vous allez me demander ce qu'est le prix MERAC. Il faut savoir que le prix MERAC récompense la meilleure thèse de doctorat en astrophysique théorique. C'est la fondation MERAC, ça veut dire l'acronyme signifie Mobilizing European Research in Astrophysics and Cosmology. Donc, qui vise à mettre en avant et à soutenir des jeunes astronomes européens. Cette fondation a été donc mise en place par la Société européenne d'astronomie, comment on l'appelle ? C'est ça, non ?
Oui.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Hein ? Oui, exact. Voilà. Et donc, voilà, avoir un prix de ce type, c'est bien. Ça décrit, ça donne tout de suite, ça qualifie la personne. Voilà. Et durant son travail, donc Sandrine a développé des outils tout à fait innovants concernant la distribution spatiale, l'orientation des galaxies. Je ne sais pas si tu vas parler de ça, donc je ne veux pas déflorer complètement le sujet, mais enfin, je sais que
ça va être un petit peu sur ce sujet.
Voilà, élargir un peu dans ce cadre-là ton propos. Et donc aujourd'hui. Le titre de la conférence, c'est précisément voilà, comment, d'une manière générale, se tisse la toile cosmique. Merci Sandrine, je te laisse
Merci
la parole.
Merci beaucoup Daniel. Merci Daniel, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Donc c'est un plaisir pour moi de venir vous parler, de la toile cosmique. Donc en fait, ce que je voudrais faire ce soir, c'est vous proposer une sorte de visite de la fabrique cosmique, comme je voulais le dire pour cette conférence. Donc en fait, on va regarder ensemble comment se tisse la toile cosmique. Je vais parler plus fort. On va regarder ensemble comment se tisse la toile cosmique. Ça veut dire comment les galaxies se répartissent dans l'univers. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on comprend cette toile cosmique, d'où elle vient, comment elle évolue. Et puis ensuite, on verra aussi comment cette toile cosmique elle est importante pour comprendre la formation des galaxies. Les galaxies vont naître, évoluer au sein de ces grandes autoroutes cosmiques que sont les filaments de la toile cosmique. Et donc, par là même, ils vont être affectés par cette toile cosmique. On va voir dans quels termes. Et puis enfin, je vous montrerai aussi en quoi cette toile cosmique elle est importante pour la cosmologie, donc pour comprendre l'histoire de l'univers. Donc voilà, c'est un vaste programme, on va faire un petit peu comme ça un voyage dans l'univers qui va nous faire parcourir des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière, pour découvrir un petit peu... Je peux essayer de parler plus fort. Donc voilà, on va essayer de faire ce petit voyage ensemble, de parcourir ces centaines de millions d'années-lumière, ces milliards d'années-lumière ensemble, et découvrir ce qu'est la toile cosmique. Mais donc pour commencer ce voyage, on va commencer déjà depuis la Terre, depuis la France en fait. Donc si vous sortez le soir par une nuit d'été, par exemple, vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez le soleil se coucher, la nuit arriver peu à peu. Et donc ce que vous allez voir, c'est une myriade de petits points lumineux qui sont comme accrochés à la voûte céleste. Donc ces petits points, il y en a quelques-uns, ce sont des planètes, vous pouvez peut-être apercevoir Mars ici. La plupart, en fait, ce sont des étoiles qui appartiennent à notre propre galaxie. En fait, ce film que vous êtes en train de voir, c'est un film qui a été fait par Guillaume Cana, que je trouve absolument magnifique. Donc Guillaume Cana, il fait des images du ciel vraiment superbes depuis les Cévennes. Donc je vous encourage à aller voir son blog si vous voulez en voir un petit peu plus. Donc là, par exemple, c'est un film qui a été pris à partir du lac des Pises, donc c'est dans les Cévennes. Et les Cévennes, vous le savez peut-être, c'est un endroit assez privilégié en fait pour observer le ciel. Donc le parc des Cévennes a obtenu par exemple le label de réserve de nuit étoilée. Donc c'est en fait la plus grande réserve européenne de ce type. Donc ça veut dire qu'on a un ciel assez préservé, un ciel assez noir, qui nous permet par exemple de voir ici la Voie lactée se lever. Donc vous pouvez voir ici ce motif bien particulier qui est dû au fait qu'on voit la Voie lactée par la tranche. Bon, bien sûr, on n'est pas totalement protégé des pollutions lumineuses. Et vous voyez, par exemple, ce petit halo lumineux ici, qui est dû au fait qu'il y a des villes pas trop loin qui vont polluer un petit peu notre ciel. Donc ici, typiquement, ça doit être Montpellier, j'imagine, qui est de ce côté-là. Donc voilà, là, c'est la Voie lactée, notre galaxie. Cette Voie lactée, on la connaît maintenant extrêmement bien. Vous savez peut-être que récemment, il y a eu la mission Gaïa, une mission de l'Agence spatiale européenne, qui nous a permis de cartographier très précisément notre galaxie. Donc en fait, on a pu ainsi cartographier quelques milliards, je pense que ça doit être quelque chose comme 1,7 milliard d'étoiles dans notre galaxie, donc leur position, leur vitesse, la caractéristique de ces étoiles. Donc on a ainsi cette vision très précise de la Voie lactée. On la connaît très bien. Donc là, vous voyez, bien sûr, c'est la Voie lactée telle qu'on la voit chez nous. Nous, on est au sein de cette galaxie, donc on a cette vision depuis l'intérieur. On ne peut pas s'échapper de la galaxie pour la prendre en photo de l'extérieur, bien sûr. Mais si on voulait dessiner un petit peu, avoir une vue d'artiste de ce à quoi doit ressembler notre galaxie, si on était un observateur extérieur, voici ce qu'on verrait. Donc une galaxie spirale, comme ça. On a un trou noir supermassif au centre, qu'on ne peut pas voir ici, bien sûr. Des bras spiraux qui s'enroulent de cette façon-là. Et donc, où sommes-nous dans cette image? En fait, on a une position qui est finalement assez banale, assez anodine. Donc le Soleil est ici. C'est une étoile parmi les centaines de milliards d'étoiles que constitue cette galaxie. Donc un soleil parmi quelques centaines de milliards. Et on a une position aussi qui est finalement assez banale, à peu près à mi-chemin entre le centre de la galaxie et puis vraiment les régions très extérieures. Donc ça, c'est notre galaxie. Bien sûr, des galaxies, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que la Voie lactée. Donc si on dézoome un petit peu et qu'on regarde quel est notre voisinage, voilà typiquement ce qu'on va voir. Donc là, vous avez la Voie lactée au centre. Et autour de nous, on va avoir quelques galaxies naines. Et puis après, des galaxies un petit peu plus massives, M31, M33, par exemple. Donc par exemple, la galaxie massive la plus proche de chez nous, c'est M31, Andromède, que vous voyez ici avec cette photo du télescope spatial Hubble. Donc ici aussi, une galaxie spirale avec des centaines de milliards d'étoiles. Alors c'est notre plus proche voisine, oui, mais il faut bien se rendre compte que on parle ici de distances qui sont quand même déjà colossales. Notre plus proche voisine, elle est quand même déjà à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire que les photons qu'on a pris en photo ici, qu'on a collectés sur Terre, ils ont mis 2,5 millions d'années à parcourir la distance qui nous sépare d'Andromède. Donc l'image que vous voyez ici, c'est une image d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, pas telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord ? C'est quelque chose de vraiment très important à comprendre et on aura l'occasion de le répéter pendant cette présentation. Bien entendu, en astronomie, surtout à ces échelles-là, regarder loin, c'est bien sûr regarder loin dans l'espace, mais c'est aussi regarder loin dans le temps. Quelque chose de très important. Alors, passons à la toile cosmique. On va encore dézoomer un petit peu plus pour voir un petit peu comment les galaxies se répartissent autour de nous. Alors pour ça, il faut dézoomer sur des distances vraiment plus importantes. Et en fait, c'est dans les années 80 qu'on s'est rendu compte pour la première fois que si on cartographie un peu les galaxies autour de nous, en fait, ces galaxies, elles ne sont pas simplement des petits univers-îles qui flotteraient comme ça, un peu aléatoirement, uniformément dans l'espace. En fait, les galaxies, donc chaque point noir ici, c'est une galaxie, ces galaxies, elles suivent un motif bien particulier que vous pouvez voir sur ces données du CFA. Un motif particulier, puisque vous voyez de grands vides où on n'a quasiment aucune galaxie, c'est ce qu'on appelle les vides cosmiques. On va avoir des filaments à la frontière de ces vides, comme vous voyez ici, où on retrouve plus de galaxies. Et puis ces filaments que vous voyez ici, ils vont ensuite s'entrecroiser au nœud de la toile cosmique où on va retrouver des amas de galaxies. Donc, par exemple, ici, vous voyez un très grand amas de galaxies ici au centre. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on observe une telle structure. Donc vous voyez, c'est une découverte assez récente. La toile cosmique, elle a été observée il y a peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'astronomie. Mais ça, c'était une observation qui avait été faite notamment par Valérie Delaparent et collaborateurs. Valérie, qui est astrophysicienne ici à l'IAP. Voilà. Alors, donc dans cette image, on y a vu beaucoup de choses. Donc, par exemple, si vous regardez ici, on dirait presque une silhouette humaine. Donc, on a souvent appelé ce motif le stickman, d'accord, la petite silhouette humaine que vous pouvez voir là, avec deux jambes, deux bras et puis un visage. Alors, bien sûr, depuis ces données des années 80, notre vision, nos observations de la toile cosmique, elles se sont précisées énormément. Donc, maintenant, on a vraiment une cartographie très, très précise de cette toile cosmique. Et donc, par exemple, là, je vais vous montrer des données assez récentes d'un relevé qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey. En fait, vous allez voir un film, on va partir de la Voie lactée et vous allez voir un petit peu toutes les galaxies qu'on a réussi à cartographier grâce à ce relevé. Voilà. Donc, chacun des points que vous voyez ici, c'est une galaxie qu'on a observée. En fait, ce sont les vraies images ici du SDSS que vous voyez. Donc là, on est en train de s'éloigner de la Voie lactée, on dézoome de plus en plus, on regarde sur des échelles de plus en plus grandes. Là, vous êtes vraiment en train de voyager sur des centaines de millions d'années-lumière, voire même des milliards d'années-lumière quand on arrivera au bout du film. Donc, ce que vous pouvez voir, si vous regardez en détail, vous allez voir que la toile cosmique va apparaître petit à petit. Vous allez voir cette structure dont on vient de parler. Peut-être je devrais quand même vous préciser que le SDSS, il n'observe pas dans toutes les directions. Donc vous allez voir, en fait, on fait des observations un peu dans des cônes. Et donc c'est quand vous regardez dans ces cônes où on fait en effet des observations que vous allez voir cette toile cosmique apparaître. Vous voyez, c'est cette structure un petit peu spongieuse avec ces grands vides où il y a très peu de galaxies, ces murs, ces filaments, ces nœuds de la toile cosmique. Donc là, c'est un film en 3D. C'est peut-être pas très facile de voir. Je peux peut-être vous montrer juste une tranche à deux dimensions. Ce sera plus facile. Donc là, c'est exactement la même chose. Nous sommes au centre ici. Plus on s'éloigne de ce centre, plus on regarde loin et plus on regarde dans le passé. Et chacun des points que vous voyez ici est une galaxie. Donc encore une fois, vous retrouvez ici la toile cosmique, vous voyez par exemple ici un vide, hein, comme une bulle presque vide, où il n'y a aucune galaxie à l'intérieur. On va retrouver des murs, des filaments à la bordure de ces vides, et puis de grands amas de galaxies quand les filaments se rencontrent. Donc là, une image de ce type, c'est vraiment des très très grandes échelles, puisque par exemple, la distance qui nous sépare de ce bord blanc que vous voyez ici, c'est 2 milliards d'années-lumière. D'accord ? Donc les galaxies qu'on voit ici, elles ont émis des photons il y a 2 milliards d'années, et ces photons ont mis 2 milliards d'années pour nous rejoindre et qu'on puisse les observer aujourd'hui. Alors, donc, en parallèle de ces efforts observationnels qui nous ont permis d'observer la toile cosmique, il y a eu aussi des efforts théoriques pour comprendre d'où provient cette toile cosmique. En fait, si on utilise le modèle standard de la cosmologie, et j'y reviendrai tout à l'heure, on prend ce modèle bien connu qui décrit l'histoire de l'univers, on le met dans un ordinateur et en fait, très naturellement, vous allez voir cette toile cosmique apparaître. D'accord, c'est vraiment un produit très naturel de ce qu'on appelle le modèle concordant de la cosmologie. Donc, dans une simulation de ce type, ce que vous voyez, c'est vraiment la matière qui va s'effondrer sous l'effet de la gravitation et former cette toile cosmique avec ses grands filaments et ses grands vides cosmiques que vous voyez ici. Donc typiquement, la dynamique ici, c'est qu'on a la matière qui s'échappe des vides pour aller vers les filaments, qui va ensuite couler le long des filaments pour rejoindre les grands amas de galaxies. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire un peu du point de vue des simulations numériques. Et donc, je vous l'ai dit, l'ingrédient de base, c'est d'utiliser le modèle concordant de la cosmologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle cosmologique? Je voudrais y revenir un petit peu. Alors déjà, ce que je n'ai pas écrit sur cette slide, c'est que la première chose, la première hypothèse, disons, de ce modèle, ça va être une hypothèse sur la place que nous occupons dans l'univers. Donc, on utilise ce qu'on appelle le principe copernicien. On va dire que notre place, elle n'a rien de particulier. Donc, l'univers, il est le même en tout point, dans toutes les directions. Ensuite, deuxième ingrédient très important, à très grande échelle, on est vraiment en train de regarder des très grandes échelles, la force dominante, c'est la force de gravitation, la force qui fait que des masses vont s'attirer, que vous avez les deux pieds sur Terre. Et donc, cette gravitation, elle est décrite par la relativité générale d'Einstein, ici. Donc, l'idée qu'on a un espace-temps qui va être déformé par la présence d'objets massifs, ce qui va mettre en mouvement les objets. Donc, on utilise ici la relativité générale d'Einstein. Vous le savez, hein, c'est une théorie de la gravitation qui n'a jamais été prise en défaut à ce jour. Elle a même fait des prédictions assez extraordinaires. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de la détection des ondes gravitationnelles, qui était une prédiction de la relativité générale et qui a été de façon absolument magnifique confirmée par des observations récemment. Donc, ça, c'est la première pierre angulaire, disons, du modèle cosmologique. Deuxième fait très important, l'univers est en expansion. Donc ça, c'est des observations des années 20, en particulier de Hubble. Ce qu'il a fait, c'est regarder les galaxies autour de nous, mesurer leur vitesse. Et en fait, il s'est rendu compte que les vitesses de ces galaxies, elles ne sont pas du tout dans des orientations aléatoires par rapport à nous. Toutes les galaxies, en fait, s'éloignent de nous, et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. C'est en fait ce qui est représenté sur ce graphique ici. Plus on est loin, plus on va vite, et on a toujours des vitesses positives parce qu'on s'éloigne de nous. Donc bien sûr, ça c'est des observations des années 20. Depuis, on a raffiné ces observations, on a pu regarder des galaxies sur des distances bien plus grandes. Ici, c'était quelques millions d'années-lumière, donc c'est ce tout petit carré rouge que vous voyez ici en bas. Maintenant, cette mesure, elle a été faite sur des milliards d'années-lumière. Et donc, à partir de cette observation, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que si nous n'avons pas une place privilégiée dans l'univers, que l'univers est le même en tout point et dans toutes les directions, alors forcément, cet univers, il est en expansion. Donc souvent, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est cette expansion cosmique, on prend l'exemple d'un gâteau qu'on mettrait au four. Donc imaginez, vous êtes en train de faire un gâteau aux pépites de chocolat, vous le mettez dans le four, sous l'effet de la levure, qu'est-ce qui va se passer ? Votre gâteau, il va monter, il va gonfler, exactement comme l'expansion cosmique. Donc vous avez compris, les pépites de chocolat, c'est les galaxies. Donc ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, toutes les pépites de chocolat, toutes les galaxies, elles s'éloignent les unes des autres, et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. C'est vraiment l'expansion cosmique. Et en fait, avec cette petite image toute simple, on peut aussi comprendre que les pépites de chocolat, elles-mêmes, elles ne grossissent pas. C'est la trame entre les pépites de chocolat qui enfle. C'est exactement la même chose pour les galaxies. Au sein d'une galaxie, on ne voit pas l'expansion cosmique. Les galaxies, c'est des objets qu'on appelle gravitationnellement liés. La force de gravité permet la cohésion de la galaxie. C'est la force dominante et on ne sent pas l'expansion cosmique. L'expansion cosmique, elle a lieu entre les galaxies. C'est vraiment la trame entre les galaxies qui grandit au cours du temps. Donc l'univers est en expansion. L'univers, il est en expansion, mais en plus, cette expansion, elle est accélérée. On s'est rendu compte que dans le passé récent, l'expansion cosmique a dû être accélérée. Et ça, c'est un fait vraiment très surprenant. Si seule la gravité était importante, on pourrait s'attendre à ce que, puisque la gravité est une force attractive, l'univers devrait ralentir son expansion. Et là, c'est exactement le contraire. L'univers, l'expansion de l'univers accélère. Et donc, il a fallu rajouter un ingrédient dans le modèle. C'est ce qu'on a appelé la constante cosmologique. Donc toute la question, c'est de comprendre quel est le moteur de cette accélération de l'expansion cosmique. Est-ce que c'est en effet une constante cosmologique ? Est-ce qu'il y aurait un fluide d'énergie sombre avec une certaine dynamique ? Est-ce que les lois de la gravité ne sont peut-être pas celles que l'on croit aux grandes échelles ? Voilà, ça, c'est vraiment des questions centrales de la cosmologie moderne. Comprendre quel est le moteur de l'expansion cosmique, de l'accélération de l'expansion cosmique. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on regarde la matière dans l'univers, et on a plusieurs sondes pour faire ça, on se rend compte que, en fait, il n'y a que 20% de la matière totale de l'univers qui est constituée de la matière visible qui vous constitue, vous et moi. Donc cette matière qui peut émettre de la lumière et que l'on peut observer, c'est uniquement 20% de la matière totale de l'univers. Les 80% restants sont une forme de matière que l'on voit parce qu'elle interagit gravitationnellement, on voit les effets gravitationnels, mais cette forme de matière n'émet pas de lumière, et donc on lui donne le nom de matière noire. Donc ça, c'est aussi une des grandes questions de la cosmologie aujourd'hui, que de comprendre quelle est cette matière noire que l'on ne peut pas imager directement. Donc si l'on devait résumer, ce modèle cosmologique concordant, il est basé sur la relativité générale d'Einstein, et puis on a un contenu de l'univers qui est donné ici. Donc si on regarde toute l'énergie dans l'univers, il y en a une partie importante, même la partie majeure en fait, qui est sous cette forme d'énergie sombre qui accélère l'expansion cosmique. On a ensuite 25% de matière noire et seulement 5% de matière visible, celle qu'on connaît tous très bien sur Terre. Donc en fait, on a 95% de l'énergie dans l'univers qui est sous une forme que l'on ne comprend pas aujourd'hui, soit de matière noire, soit d'énergie sombre. Donc avec ce modèle de la cosmologie, on peut retracer l'histoire de l'univers. Et donc, typiquement, si on part d'ici, l'univers aujourd'hui, puisqu'il est en expansion, ça veut dire que dans le passé, toute la matière que nous voyons dans l'univers observable était dans un volume de plus en plus petit. Donc, on a un univers qui est de plus en plus chaud, de plus en plus dense, jusqu'à arriver au Big Bang que vous voyez ici. Donc, si on retrace l'histoire dans l'autre sens maintenant, on part donc de ce Big Bang, qui est un instant où les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont plus valides. on a une période d'inflation cosmique, c'est-à-dire que l'univers va être en expansion exponentielle ici. Petit à petit, l'univers se refroidit. En se refroidissant, tout d'un coup, il était opaque précédemment, il va pouvoir devenir transparent, les photons d'un coup sont libérés et peuvent se propager librement. C'est l'émission de la première lumière de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, cette première lumière qui est observable depuis la Terre. Et on a eu des observations très précises de ce fond diffus cosmologique avec, par exemple, la mission européenne Planck récemment, qui nous a donné des contraintes très très fortes sur les paramètres cosmologiques. Donc ce que vous voyez, c'est que dans cet univers très très jeune que l'on voit dans le fond diffus cosmologique, en fait, l'univers, à ce moment-là, il est très homogène. Il y a de toutes petites fluctuations que vous pouvez voir en bleu et en rouge ici, mais en fait, c'est des fluctuations qui sont vraiment très petites, 10-5, c'est-à-dire 0,01%. Un univers très homogène, de tout petits grumeaux qui sont vraiment minuscules. Ces petits grumeaux, en fait, ils sont d'origine quantique. C'était des fluctuations quantiques dans l'univers primordial qui ont donné naissance à ces fluctuations de température ici, ou de densité, de masse. Et en fait, c'est ces petites fluctuations qui ensuite vont croître sous les effets de la gravité. Et puis, petit à petit, on va voir les premières étoiles apparaître, les premières galaxies, et puis les structures, la toile cosmique. Donc c'est grâce à ce modèle concordant de la cosmologie, que l'on connaît maintenant très bien, que l'on peut faire des simulations numériques et voir cette toile cosmique apparaître, comprendre son évolution. Alors bien sûr, faire des simulations numériques de ce type avec des très très grands volumes, le volume de l'univers observable en entier et assez de résolution, c'est bien sûr coûteux en temps de calcul. Il faut des gros ordinateurs, des supercalculateurs pour faire ça. Et bien sûr, on n'a pas attendu d'avoir ces supercalculateurs pour comprendre d'où venait la toile cosmique. En fait, depuis déjà longtemps, il y avait eu des travaux théoriques pour expliquer d'où provient cette toile cosmique. En particulier, dans les années 70, il y avait une école russe, une école américaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on savait qu'on allait former typiquement des objets très aplatis, très allongés, donc un peu comme les murs et les filaments de la toile cosmique. Et la raison, donc c'était des arguments du physicien russe Zeldovich, c'était la suivante. Quand vous avez un petit grumeau initial, ce petit grumeau, typiquement, il ne va pas être sphérique. Il va avoir une certaine forme. Donc ici, par exemple, je vous ai dessiné une petite ellipse pour dire que typiquement, le petit grumeau, il a une certaine triaxialité. Ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir la compétition de deux effets. L'expansion de l'univers qui va avoir tendance à diluer ce petit grumeau et en même temps, la gravité qui, elle, va avoir l'effet exactement opposé, qui va être de tendre à, en fait, faire que ce grumeau collapse, s'effondre. Et donc, c'est la compétition de ces deux effets qui va faire que, en fait, ce petit grumeau, il va peu à peu s'effondrer. Et en fait, il va commencer par s'effondrer par l'axe le plus petit. Donc, l'axe le plus petit du grumeau va s'effondrer. Donc, s'il y a un axe qui s'effondre, ça veut dire qu'on va former une structure qui est complètement aplatie, un peu comme une crêpe, ce à quoi on a donné le nom de pancake de Zeldovich, en forme des crêpes. Maintenant, il y a le deuxième axe qui va s'effondrer à son tour. Et donc là, de la crêpe, on va passer à une structure allongée, un peu comme un cigare, si vous voulez. Et donc, très naturellement, on savait qu'on allait former ces structures très anisotropes, des cigares, des crêpes. Alors bien sûr, quand on regarde la toile cosmique, on ne voit pas des cigares et des crêpes mis un peu comme ça, n'importe comment. Ce qu'on voit, c'est une toile cosmique qui est très connectée. Donc ces travaux-là, ils ne peuvent pas expliquer vraiment ça. Hein. Ils ne peuvent pas expliquer cette toile cosmique complètement connectée avec ces filaments qui se connectent aux amas, etc. Pour ça, il faut attendre encore quelques années. Et il faut attendre en particulier des travaux fondateurs, ceux notamment de Dick Bond, Lev Kaufmatt et Dimitri Pogosian, qui non seulement vont donner le nom de toile cosmique à la toile cosmique, mais qui vont nous permettre de comprendre d'où provient cette toile cosmique, quelle est son origine. En fait, l'origine, elle est déjà dans l'univers quand il était tout jeune. Et en fait, déjà ici est imprimée la toile cosmique qui va naître beaucoup plus tard. En fait, si vous regardez ces toutes petites fluctuations qui sont vraiment toutes petites, il y a quand même certains endroits où vous allez avoir des pics, hein, des endroits comme les pics d'une montagne, où on a des endroits un petit peu plus denses, et au contraire, des endroits bleus qui sont un peu moins denses. En fait, ces pics un petit peu plus denses, ils sont tout petits, on l'a dit, c'est des fluctuations toutes petites, mais la gravité, petit à petit, va faire croître ces inhomogénéités, ces grumeaux qui vont grossir, et en fait donner naissance plus tard aux amas de galaxies que nous observons aujourd'hui. Entre ces pics, qui vont être les nœuds de la toile cosmique, Vous allez retrouver ici des ponts, et ces ponts, petit à petit, vont en fait former les filaments que l'on va observer aussi plus tard. Donc la structure de la toile cosmique, les amas, les ponts entre les amas, les filaments, sont déjà là dans l'univers quand il était tout jeune. Et donc c'est avec ces travaux-là qu'on comprend en fait comment va se former la toile cosmique et comment elle va évoluer. Alors bien sûr, après, il y a eu beaucoup de travaux théoriques. Maintenant, on a des modèles qui nous permettent de comprendre complètement comment cette toile cosmique elle va évoluer, même si je ne vais pas le montrer ici, puisque je ne vais pas vous montrer un petit peu tous ces développements analytiques, mais ils sont bien là. Donc la conclusion à ce stade, c'est que la toile cosmique, on l'a observée au cours du temps de plus en plus finement. En parallèle, il y a eu des efforts très importants pour la comprendre d'un point de vue analytique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue aussi numérique, avec des simulations numériques toujours plus performantes pour la caractériser de mieux en mieux. Alors maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cette toile cosmique, c'est un peu une trame de fond sur laquelle les galaxies vont se former peu à peu. Donc les galaxies, elles vont naître, elles vont évoluer au sein de cette toile cosmique, au sein de ces grandes autoroutes, on pourrait dire, cosmiques. Et donc il y a une question qui se pose quand on veut comprendre comment les galaxies se forment, qui va être: quel est l'effet de cet environnement très particulier sur le devenir d'une galaxie, sur les propriétés des galaxies telles qu'on les observe aujourd'hui? Donc ici, vous voyez qu'il y a une compétition entre deux effets, l'effet de l'environnement par rapport à l'effet des processus internes à la galaxie, ce qu'on va appeler l'évolution séculaire d'une galaxie. En fait, c'est un problème de comprendre quel est l'effet de l'inné par rapport à l'acquis sur le devenir d'une galaxie. Ici, par exemple, vous voyez une simulation numérique. Donc ça, c'est vraiment l'état de l'art de ce que l'on est capable de faire en termes de simulation numérique aujourd'hui. C'est la simulation Horizon AGN qui a été faite par Johan Dubois, ici à l'IAP. Donc ici, il faut comprendre qu'on essaie de résoudre un problème très difficile. On essaie de comprendre comment les galaxies se forment. Donc chacun des petits points bleus que vous voyez ici est une galaxie. Et en même temps, on est en train d'essayer de modéliser une très grande portion de l'univers. On dit que c'est un volume cosmologique. On regarde des très grandes échelles dans l'univers. Et ça, c'est un problème difficile. Le film que je vous ai montré juste avant, l'autre simulation numérique, c'était une simulation où on mettait uniquement de la gravité. Ici, on passe à l'étape supérieure et on essaie en plus de décrire comment, par exemple, le gaz il va évoluer dans cette simulation. Donc on essaie de décrire les processus thermodynamiques. Le fait que le gaz il va chauffer, il va se refroidir. Le fait aussi qu'il va y avoir plein de processus astrophysiques complexes. La formation des étoiles, le fait que certaines étoiles vont exploser, les supernovas, il va y avoir des vents stellaires. On a des trous noirs ici, avec peut-être des noyaux actifs de galaxies très énergétiques qui vont aussi relâcher de l'énergie et de la matière dans leur environnement. Donc tout ça, c'est des processus très complexes. Et donc c'est vraiment depuis seulement quelques années qu'on a réussi à modéliser tout ça avec des ordinateurs. Alors pour faire une simulation de ce type, c'est des millions d'heures de calcul. Typiquement, celle-ci, c'est à peu près 10 millions d'heures de calcul qu'il a fallu. Alors bien sûr, on ne fait pas 10 millions d'heures de calcul sur un seul ordinateur portable, par exemple, mais on utilise des supercalculateurs pour pouvoir faire tout ça en parallèle sur beaucoup d'ordinateurs à la fois. Voilà, donc là, vous voyez, quand vous regardez un film comme ça, vous voyez vraiment les galaxies qui évoluent au sein de cette toile cosmique. Vous voyez qu'elles vont couler le long des filaments pour rejoindre les amas. Ces galaxies, elles vont aussi accréter de la masse, accréter du gaz en provenance de ces filaments. Elles vont fusionner également au cours du temps. Donc, on peut se demander un peu, par exemple, dans cette simulation, en quoi le fait que telle galaxie soit dans un filament va changer les propriétés qu'elle va pouvoir développer au cours du temps. Et il y a plein d'effets qui sont en fait très faciles à comprendre. Par exemple, on sait que les galaxies les plus massives vont avoir tendance à se retrouver dans les nœuds de la toile cosmique, alors qu'au contraire, dans les filaments, on va avoir tendance à avoir des galaxies moins massives. Et ça, c'est en fait assez facile à comprendre, finalement. Quand on est dans un nœud de la toile cosmique, il va y avoir plein de filaments qui vont venir se connecter, qui vont venir apporter du gaz, et donc, on va pouvoir faire croître en masse ces galaxies de façon très efficace. Donc là, on va pouvoir former des objets très massifs, parce qu'il y a beaucoup de matière qui arrive par plein de directions différentes. Au contraire, dans un filament, il n'y a que deux directions qui peuvent apporter du gaz. Donc ces objets ne vont pas pouvoir gagner beaucoup en masse. Et bien sûr, plus ce filament il est ténu, et moins on va pouvoir accréter de la matière, moins la galaxie va pouvoir être massive. D'accord ? Donc ça, c'est le premier effet. Déjà, la masse d'une galaxie va dépendre de l'endroit où la galaxie se trouve. Le deuxième point, c'est que la morphologie de la galaxie aussi va changer suivant où on est dans la toile cosmique. Par exemple, au nœud de la toile cosmique, on va avoir tendance à retrouver plutôt des galaxies elliptiques, alors que dans les filaments, on va plutôt tendance à retrouver des galaxies spirales comme la Voie lactée. Ça aussi, on peut essayer de le comprendre un petit peu comme ça avec les mains. Quand on est dans un nœud, on va accréter de la matière suivant plein de directions différentes. Donc vous voyez que ça va être très difficile de pouvoir accréter de la matière de façon cohérente. Pour former un disque, on a besoin de cohérence. On a besoin d'accréter de la matière de façon cohérente pour pouvoir construire un disque. Ça va être très difficile dans les nœuds. Au contraire, dans les filaments, parce qu'on est nourri que par uniquement deux filaments qui ont la même direction, une direction qui va changer très peu au cours du temps, on va pouvoir petit à petit construire des disques de façon cohérente. Donc c'est pour ça que la morphologie des galaxies va aussi dépendre un petit peu de là où elle se trouve dans la toile cosmique. Il y a plein d'autres caractéristiques de ce type. Par exemple, si on regarde si une galaxie est passive ou active, ça va être aussi quelque chose qui dépend de son environnement. Donc typiquement dans les nœuds, on va avoir des galaxies qui sont plutôt éteintes, passives, qui ont arrêté de former des étoiles. Alors que dans les filaments, on va avoir des galaxies qui, elles, sont plutôt actives, forment des galaxies de façon assez intense. Donc, en plus de toutes ces propriétés, la masse, la morphologie, l'orientation de la galaxie, la façon dont la galaxie elle est orientée dans la toile cosmique, ça va aussi dépendre de où elle se trouve. Par exemple, si vous regardez les galaxies à disque, les galaxies spirales, que vous regardez leur axe de rotation, vous allez voir que l'axe de rotation des galaxies a tendance à être aligné avec le filament. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement. En fait, un filament, quand il se forme, il va créer ce qu'on appelle de la vorticité. C'est-à-dire que vous avez le filament qui se forme, et en fait, en se formant, il va créer de la vorticité, c'est-à-dire comme des vortex, si vous voulez, à l'intérieur de ce filament. Donc si une galaxie se forme au sein d'un vortex, qui est comme ça le long du filament, elle va aussi se former avec du moment angulaire, avec un axe de rotation qui va être aussi aligné avec le filament. D'accord ? Là, j'ai essayé de dessiner un petit vortex pour que vous puissiez voir. Donc, l'axe de rotation des galaxies va dépendre de où ces galaxies se trouvent dans la toile cosmique. L'orientation des elliptiques aussi va dépendre de où elles se trouvent dans la toile cosmique. Typiquement, une galaxie elliptique, ce qui se passe dans une galaxie elliptique, c'est qu'on n'est pas du tout dominé par la rotation, comme c'est le cas dans un disque. Un disque, il est dominé par la rotation dans le disque. Pour une elliptique, on va être dominé plutôt par des effets de... le fait que les étoiles ont des mouvements aléatoires, en fait, dans une galaxie elliptique. Et donc, cette distribution des étoiles, elle va être influencée par les champs de marée autour de la galaxie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un filament, le filament, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à étirer la galaxie. Et donc, en fait, typiquement, les elliptiques, qui sont représentées par des petites ellipses ici, ces galaxies elliptiques, elles vont avoir tendance à être étirées le long des filaments. C'est aussi dû au fait que, comme on accrète de la matière le long des filaments, on va avoir tendance, du coup, à être étiré en direction des filaments, d'accord, de cette direction d'accrétion. Donc, vous le voyez, la toile cosmique, elle a un impact très important sur la formation des galaxies, sur leur évolution au cours du temps. Donc, on l'a vu, la masse, la morphologie, l'orientation des galaxies, tout ça va dépendre de où les galaxies se forment. Donc, le dernier point que je voulais mentionner dans cet exposé, c'est le fait que la toile cosmique, donc elle est importante pour la formation des galaxies, c'est aussi une sonde très importante pour la cosmologie. En effet, on a vu ensemble qu'on pouvait comprendre la formation, l'évolution de la toile cosmique à l'aide de ce qu'on a appelé le modèle concordant de la cosmologie. Cette toile cosmique, je vous le rappelle, elle est le résultat de la compétition entre deux effets, l'expansion de l'univers d'une part, et le fait que la gravité va avoir tendance à faire s'effondrer les structures d'autre part. Et donc cette toile cosmique, elle va être sensible à, par exemple, le modèle de gravité qu'on a utilisé. Donc par exemple, si la relativité générale n'est pas la bonne théorie, mais qu'on a besoin de modifier notre théorie de la gravitation, on va pouvoir avoir une signature de cet effet en observant la toile cosmique. Cette toile cosmique, elle va aussi être sensible à l'énergie sombre, par exemple. Est-ce qu'on a une constante cosmologique? Est-ce qu'on a une énergie sombre dynamique? Et puis, cette toile cosmique, elle va être sensible aussi à la matière noire. Donc, on va essayer d'apprendre des choses sur la matière noire en observant la toile cosmique. Donc, en fait, on dit souvent que la toile cosmique, c'est un peu un laboratoire de physique fondamentale. On va utiliser la toile cosmique comme une sonde pour en apprendre davantage sur l'univers, son histoire, et aussi sur la physique fondamentale en général, sur les neutrinos, par exemple. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir des observations toujours plus fines de cette toile cosmique pour pouvoir ensuite mettre des contraintes sur le modèle cosmologique, sur la physique fondamentale. Je vous ai parlé un petit peu de certains relevés qu'il y a eu dans le passé. Par exemple, je vous ai parlé du SDSS. Dans le futur, et en fait aujourd'hui, on est en train de construire des expériences encore plus puissantes pour pouvoir justement cartographier cette toile cosmique avec toujours plus de précision. Donc quelques exemples, vous avez le satellite Euclide, par exemple, qui est un satellite européen qui sera lancé probablement en 2021-2022, qui va faire exactement ça, donc essayer de comprendre la matière noire, l'énergie sombre, en cartographiant la toile cosmique. Vous allez avoir aussi l'observatoire du LSST, qui est construit en ce moment, en fait, et qui devrait commencer à acquérir des données pour la science, probablement aux alentours de 2022. Ou encore ce satellite américain WFIRST, qui devrait peut-être voir le jour vers 2025-2026. Donc voilà, tous ces projets qui vont être là pour essayer justement de comprendre mieux l'histoire de l'univers en observant la toile cosmique. En fait, quand je dis observer la toile cosmique, il y a deux façons d'observer la toile cosmique pour la cosmologie. La première façon, c'est de cartographier, comme on en a déjà parlé, les galaxies. Donc on cartographie les galaxies à trois dimensions dans l'espace. Et à partir de ça, on essaie de dire des choses sur l'histoire de l'univers, sur la cosmologie. Il y a une autre façon de procéder, en fait, qui est basée sur ce qu'on appelle l'optique gravitationnelle. L'idée ici, c'est que l'univers, dans sa globalité, va agir un petit peu comme une loupe. Alors, voyons un petit peu ensemble comment ça marche en pratique. En relativité générale, quand vous avez des objets massifs, par exemple ici, vous avez un amas de galaxies, cet objet massif, il va déformer l'espace-temps. En déformant l'espace-temps, on va en fait modifier la trajectoire, par exemple, des photons. Donc, si vous avez un objet très, très massif ici, par exemple, un amas de galaxies, qu'en arrière-plan, vous avez une petite galaxie qui est en train d'émettre des photons, ce qui va se passer, c'est que la trajectoire de ces photons va être déviée par la présence de masse entre cette galaxie et nous. Et donc, le résultat net de cet effet, c'est le suivant. Alors, ce que vous voyez dans ce film, en fait, c'est qu'on a mis donc, des lentilles, qui correspond aux amas de galaxies dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ici en orange. En arrière-plan, vous avez une trame de galaxies d'arrière-plan. On fait bouger cette trame de galaxies, donc vous voyez l'effet que ces objets orange d'avant-plan ont sur ces galaxies d'arrière-plan. Donc vous voyez qu'on est en train de déformer les images des galaxies d'arrière-plan parce qu'il y a de la masse, en fait, sur la ligne de visée et que donc la trajectoire des photons va être modifiée. Vous voyez même ici un anneau d'Einstein qui est formé. Ça, c'est un effet que vous pouvez observer, par exemple, chez vous. Si vous prenez un verre à pied, vous mettez une petite lumière derrière, vous bougez un petit peu votre verre à pied, et vous allez voir au travers du verre la formation exactement de ce genre de motif. C'est exactement la même chose qui se produit ici. L'univers entier est une loupe. Et donc, vous voyez que si on est capable d'observer les déformations des galaxies, ce qu'on est en fait capable de faire en faisant ça, c'est de dire quelle quantité de masse il y a dans l'univers pour pouvoir défléchir la trajectoire des photons et déformer les galaxies telles qu'elles le sont. Donc, en fait, on essaye exactement de faire ça. On essaie de mesurer les déformations des galaxies pour pouvoir, en fait, cartographier la masse dans l'univers. Donc, voilà, c'est ça, vraiment, les deux sondes principales que l'on va utiliser, en fait, dans le cadre de ces missions. Donc, une cartographie directe de la toile cosmique, regarder où les galaxies sont, et ensuite, regarder comment les galaxies sont déformées par cet effet d'optique gravitationnelle dont je viens de vous parler. Alors, dans le temps qui me reste, les quelques petites minutes qui me restent, je voulais juste revenir sur une de ces missions, Euclide. Je voulais y revenir un petit peu, bon, déjà parce que je suis membre du consortium, aussi parce que c'est une mission très importante pour le labo dans lequel vous êtes ici. L'IAP joue un rôle majeur pour cette mission. Le responsable scientifique de la mission, Yannick Mélier, est ici à l'IAP. Donc ce satellite, c'est un satellite européen, c'est un satellite de l'ESA, donc c'est un très gros consortium de chercheurs, d'ingénieurs derrière. On parle de gens qui sont dans une quinzaine de pays, c'est quasiment 1500 personnes qui travaillent sur ce projet depuis des années. Donc le lancement, il est prévu en 2021, peut-être 2022. C'est une Soyouz qui va mettre Euclide en orbite autour du point de Lagrange L2. Et ce que Euclide va faire, c'est que pendant 6 ans, il va observer le ciel, observer en fait un tiers du ciel, et probablement imager au final quelques milliards de galaxies sur une très grande période, quelque chose comme les 10 derniers milliards d'années d'évolution de l'univers. Donc, dans cette mission, en fait, on a deux instruments. Un premier qui est un imageur dans le visible, qui s'appelle le VIS. Donc, en fait, c'est une caméra dans le visible, une caméra qui a 600 millions de pixels. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée de la qualité de cette optique, si vous mettez cette caméra de 600 millions de pixels à Marseille, vous pouvez typiquement détecter une mouche sur un ballon de foot au Parc des Princes. Voilà, pour vous donner un petit peu une image de la qualité optique derrière cet instrument. Donc ça, c'est le premier. C'est avec lui qu'on va pouvoir faire en fait toutes les mesures d'optique gravitationnelle. Parce qu'on va vraiment imager les galaxies, on va mesurer leur déformation. Le deuxième instrument qu'on va avoir, c'est un spectro-imageur infrarouge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NISP. Donc c'est une caméra infrarouge. Et là, encore une fois, hein, c'est un instrument incroyable. C'est la plus grande caméra infrarouge qui a jamais été lancée dans l'espace. Enfin, qui sera jamais lancée dans l'espace. Donc voilà, avec ces deux instruments, on va pouvoir mesurer en très, très grand détail la toile cosmique. Donc en fait, il y a plein de défis assez impressionnants derrière une mission de ce type. Bon, déjà, il y a un défi technologique, hein, je viens d'en parler un petit peu. Il y a un défi observationnel, hein, on va faire face à des systématiques très, très importantes. Bon, j'y reviendrai pas, mais donc on a aussi ce challenge important. On a un défi qui est aussi un défi théorique, la modélisation en fait, de toutes ces observables, de toutes ces observations qu'on va faire. C'est un vrai défi. Pour l'instant, il y a des parties de cette modélisation qui ne sont pas encore résolues. Il y a encore des questions ouvertes pour les théoriciens. Donc, en fait, c'est le travail que je fais, c'est vraiment sur cette partie-là, essayer de comprendre comment modéliser toutes ces observations qu'on va faire. Et puis, il y a aussi un défi qui est un défi du point de vue du traitement des données. Donc, juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, toutes les données que Euclide va acquérir, ça représente quelque chose comme 170 pétaoctets de données. Donc, si vous aviez envie de stocker ça dans des disques durs, que vous empiliez vos disques durs, vous arriverez à faire une pile de à peu près, je crois, 2,5 km de hauteur. Donc, voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée de la quantité de données absolument gigantesque qu'on va avoir à traiter. Et donc, il va falloir aussi avoir toute l'infrastructure pour gérer ces données assez impressionnantes. Donc voilà, donc une mission de ce type, ça va être vraiment l'idée ici, mesurer en détail la toile cosmique. Et l'espoir, qu'est-ce que c'est? L'espoir derrière tout ça, c'est de pouvoir détecter, par exemple, des anomalies, en fait. De pouvoir détecter que bah, peut-être on a fait une observation, et là, ça nous dit que finalement, la théorie de la relativité générale, elle n'a pas l'air de marcher si bien que ça. Il y a peut-être des petites modifications à faire. Ou alors, des observations qui vont nous dire... Ah, mais finalement, on a utilisé une constante cosmologique, mais en fait, peut-être qu'on a une énergie sombre avec une certaine dynamique. Ou alors, on va peut-être pouvoir détecter des propriétés de la matière noire. Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qu'on a envie d'adresser, et toutes des anomalies de ce type qu'on a envie de détecter, qu'on espère détecter dans le futur. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai fini mon temps, juste pour conclure un petit peu sur cet exposé. Donc j'espère que vous aurez tous retenu aujourd'hui que les galaxies ne flottent pas aléatoirement dans l'univers, elles forment une toile cosmique. Cette toile cosmique, on l'observe de façon très très précise, de plus en plus précise avec le temps. On sait la modéliser, on la comprend, on sait d'où elle vient, on sait exactement décrire son évolution, que ce soit à partir de travaux théoriques ou à partir de simulations numériques. Cette toile cosmique, elle a une importance considérable pour comprendre comment les galaxies évoluent, comment elles naissent, comment elles évoluent au cours du temps, comment elles obtiennent les propriétés qui sont celles que l'on observe aujourd'hui. Et puis enfin, cette toile cosmique, c'est une sonde cosmologique très importante, déjà aujourd'hui, encore plus dans le futur, avec l'arrivée de ces grandes missions spatiales dont je vous ai parlé, en particulier Euclide, puisque je vous ai parlé un petit peu plus d'Euclide. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez maintenant. Merci. Allez.
Ça marche? Vous entendez là? Oui. Merci Sandrine. C'est très clair et une magnifique présentation. J'aurais envie de poser plein de questions, mais ce n'est pas à moi de les poser. Je pense qu'on va certainement avoir des questions dans la salle. Alors, je vais essayer de les répartir à peu près correctement.
Bonjour, merci pour cette magnifique présentation. Vous nous avez parlé de mur à un moment. Est-ce qu'un mur est un gros filament ou qu'est-ce que c'est un mur?
Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué en détail, merci pour la question. Donc en fait, on a ces grands vides qui sont vraiment, il faut voir ça comme une bulle, des bulles où il n'y a quasiment aucune galaxie à l'intérieur. Le mur, en fait, c'est tout simplement la frontière de ce vide, c'est l'enveloppe du vide, donc c'est vraiment une structure à deux dimensions. Et en fait, quand on va voir ces bulles qui se mettent les unes à côté des autres, ce qui va se passer, c'est que les murs vont s'entrecroiser et former les filaments aux intersections. En fait. C'est vraiment, vous prenez des balles en mousse, vous les mettez les unes à côté des autres, vous allez voir ça. Donc on a les murs qui sont les enveloppes de ces balles, Et puis les murs, ils vont se rejoindre à certains endroits, former des lignes qui vont être les filaments, en fait. À 2D, c'est toujours un peu difficile de voir des choses à trois dimensions, mais voilà, c'est un petit peu ça qui se passe.
Merci. Merci pour votre exposé. Je crois que l'univers est en expansion et que les galaxies s'écartent les unes des autres. Or, quelle est la nature du cas particulier où Andromède s'approche de nous ? Merci.
Merci pour la question. Donc, en effet, en moyenne, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Maintenant, ce qui va déterminer la vitesse d'une galaxie, c'est deux choses. Ça va être la vitesse de ce qu'on appelle le flux de Hubble, c'est-à-dire la vitesse d'expansion de l'univers. Mais aussi, chaque galaxie va avoir sa vitesse particulière. Donc, par exemple, Andromède, elle fait partie du groupe local de galaxies. Donc, on est en train, Andromède et la Voie lactée vont, dans très longtemps, fusionner l'une avec l'autre parce que ce système, en fait, est en train de s'effondrer. Mais donc ça, c'est pas en contradiction avec le fait que l'univers est en expansion. On a l'univers en expansion, mais bien sûr, par-dessus cette expansion, chaque galaxie va avoir sa dynamique propre, et donc on va avoir des amas de galaxies avec des objets qui fusionnent, etc., et qui sont en interaction gravitationnelle.
Merci, madame. Le sujet est sérieux, mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il est amusant de voir comment l'être humain, dans sa quête de savoir, ne peut décidément pas s'affranchir de la finitude. Vous-même, vous avez pris l'exemple du gâteau, avant, pendant et après sa cuisson, mais un gâteau est fini, il est mesurable à chaque instant, dans son entité. Et naturellement, l'être humain poursuit ce raisonnement en disant que l'univers est fini, puisque le vocabulaire même utilisé par vous et vos confrères, entre parenthèses, hein, est un vocabulaire qui exprime la finitude. Vous dites l'univers, le contenant de l'univers. Personnellement, je pense que l'univers est infini. Et à ce moment-là, je mets en relation l'infini et l'expansion continue, et qui plus est, l'expansion accélérée. Et si on met en relation ces deux notions, je demande qu'on m'explique. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit est confronté à une problématique qui, à mon sens, est loin d'être résolue. Un infini, si on est convaincu de cette notion, et justement, la somme des réflexions et des conclusions mises en œuvre s'inscrit dans la finitude, qui n'est d'ailleurs pas, à mon sens, une honte. C'est le propre de la condition humaine. Alors qu'on me mette en équation un infini, si on y croit, hein, un infini qui est en expansion et en expansion accélérée, le problème sera dur à résoudre.
Alors Sandrine, merci. Voilà, c'est une question compliquée, presque métaphysique.
Non, en fait, donc, dans tout ce que j'ai décrit, je n'ai jamais dit ce que je supposais sur la topologie de l'univers. Je n'ai jamais dit que l'univers était infini ou fini. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que l'univers observable, ce que l'on est capable d'observer, c'est un volume fini par définition, puisque les photons, ils ont mis un certain temps à nous parvenir, et donc on peut voir uniquement ce qui s'est passé dans les 13,7 milliards d'années-lumière autour de nous. Donc ça, c'est l'univers observable qui est bien fini. On sait définir ce qu'on appelle l'horizon de l'univers observable. Après, est-ce que l'univers est infini ou fini ? Ce n'est pas du tout une question que j'ai tranchée ici. Je n'ai jamais fait la supposition que l'univers était fini ou qu'il était infini. On a des mesures pour ça. Par exemple, avec le satellite Planck, en observant le fond diffus cosmologique, on a pu mettre une limite sur quelle devait être la taille minimale de l'univers. Mais donc on n'a pas de borne supérieure. Donc on sait que l'univers, il a une taille minimale, qui est, je ne sais plus, 1,4 fois l'horizon, quelque chose de ce type-là. Mais on n'a pas de borne supérieure. Donc l'univers pourrait être fini ou infini, Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ce sujet-là. Et en tout cas, on ne fait jamais l'hypothèse d'une finitude. Pardon, j'ai pas entendu.
Si l'univers se développe, c'est qu'il devient un contenant dans un contenu. C'est difficile peut-être de
l'aider. Je suis pas sûr.
Oui, la question, c'est dans. Je crois que la question que monsieur veut poser, c'est si l'univers est fini, dans quoi se développe-t-il ? Enfin, c'est un peu ça. Voilà. Et ça, c'est pas. On n'est pas obligé de...
Bon, après, c'est une question qu'on peut se poser. Mais ici, en tout cas, on n'a pas fait de limitation sur ça. Donc après, il y a plein de théories sur ce à quoi peut ressembler l'univers à très grande échelle. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de théorie du landscape, où on aurait un peu des patchs d'univers avec des constantes fondamentales différentes, chaque patch évoluant un peu indépendamment. Mais tout ça, c'est des choses qui se passent au-delà de la taille de l'horizon et qu'on n'est pas capable de mesurer, d'observer aujourd'hui. Or, faire de la science, c'est faire des mesures. On est tous des expérimentateurs. Bon, en astrophysique, on n'est pas des expérimentateurs au sens expérience de laboratoire, on est des observateurs. Et donc, la science que l'on peut produire en tant que scientifique, c'est une science de l'observation. Et ça, on n'est pas capable de l'observer aujourd'hui.
Mais ça m'envoie, excusez-moi, juste je vous redonne la parole. Quand on voit une image où vous montrez, donc les photos que tu montres, vous, la communauté, montre des filaments, des galaxies, etc. Bon, j'ai vu les échelles, c'est à peu près plusieurs mégaparsecs de côté.
Oui,
bon, même gigaparsecs. Il y a des limites à ce qu'on peut faire, parce que sinon, au niveau temporalité, la partie droite et la partie gauche ne sont pas reliées. On voit faussement des formes qui ne sont pas, qui sont peut-être plus les mêmes. Il y a un problème de temporalité entre les deux parties de l'image. En profondeur, c'est évident, mais vous prenez des tranches, j'imagine. Mais c'est vrai aussi de la partie haute et
basse. J'ai pas compris la question.
Ma question, c'est qu'entre la partie gauche et la partie droite, ouais. Une image qui fait où vous représentez des galaxies, des filaments.
Donc on regarde dans deux directions différentes.
Ouais, ces deux directions correspondent. Pour passer de la partie gauche à la partie droite, il faut un temps extrêmement long pendant lequel ces objets n'auront pas du tout la même forme.
Oui, tout à fait. Donc le fait qu'il y a une corrélation entre des échelles qui pourtant ne sont pas connectées,
voilà.
C'est ça.
Et donc,
par exemple,
ça doit limiter la taille que vous choisissez pour faire vos modèles en simulation.
Ce n'est pas que ça limite la taille, mais par exemple, c'est un indicateur de ce qu'on va appeler l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, elle est là justement pour pouvoir dire qu'en fait, tous ces patchs, ils étaient connectés dans le passé, et c'est pour ça qu'il y a une cohérence. Ces patchs, ils sont corrélés.
Bon, maintenant, vous avez aussi dit qu'il faut des heures de calcul très importantes pour faire ces simulations-là. Quand on les voit, elles sont absolument magnifiques, mais on se demande quelle est la nécessité de simuler sur des grandeurs, enfin, sur des volumes aussi grands. Pourquoi ne pas se restreindre ? Est-ce que les choses changent vraiment quand on passe d'un certain volume à un autre volume plus grand. Quelle est la taille ? Quel est l'optimum pour facteur qualité-prix ?
En fait, typiquement, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, dans l'optique de ces grands relevés de galaxies, ça va être imiter ce que l'on va pouvoir observer. Donc, par exemple, on va faire des observations avec Euclid, on va avoir besoin de simuler des volumes qui sont de taille comparable avec ceux d'Euclid, parce qu'on atteint des précisions ici de mesure qui sont vraiment très impressionnantes. On parle souvent de cosmologie à 1%, mais voilà, c'est le genre d'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. On fait des mesures extrêmement précises, donc on a besoin de simulations qui vont être le plus précises possible et donc qui vont pouvoir simuler ces très grands volumes. Donc voilà, et donc des volumes typiquement pour Euclid, voilà, ça va être des volumes de milliards d'années-lumière de côté, qui sont quasiment la taille de l'univers observable.
Oui, je reconnais que votre hypothèse de toile cosmique, c'est la première fois que j'en entends parler. Et donc, sur le fond cosmologique, j'ai vu une sorte de pentagone,
oui.
Où il y a déjà cette toile cosmique.
Tout à fait.
Or, cette toile cosmique, si elle y est, c'est qu'elle provient d'un état antérieur.
Oui.
Et donc, à l'état antérieur, vous avez bien dit qu'il y avait l'inflation. Alors, est-ce que cette toile cosmique s'est faite avant pendant l'inflation ? Enfin, vous voyez, j'essaye de voir moi, ce que représente cette toile cosmique. Dont tout dépend, in fine, d'après votre...
Donc en fait, on va dire les germes de la toile cosmique, si on veut, c'est des fluctuations quantiques dans l'univers primordial, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on les comprend aujourd'hui. Donc des petites fluctuations quantiques qui, peu à peu, ont imprimé des fluctuations de température dans l'univers, des fluctuations de densité, qui ensuite, en s'effondrant sous l'effet de la gravité, vont produire la toile cosmique à grande échelle que l'on observe aujourd'hui. Donc, on va dire la toile cosmique à très grande échelle, c'est effectivement ces fluctuations quantiques primordiales. Et puis après, voilà, cette toile cosmique, elle évolue de façon complexe, hein, de façon très non linéaire. C'est de la physique complexe, après, à plus petite échelle, pour former celle que nous observons aujourd'hui.
Oui, mais ma question, c'est donc ces fluctuations quantiques sont déjà corrélées.
Tout à fait. Tout à fait. Et ça, par exemple, on en a une image très précise avec le fond diffus cosmologique, de ces corrélations primordiales, hein, de cette statistique du champ primordial. Tout à fait.
Ici, ensuite.
Merci. Quand vous dites que les galaxies, dans les filaments s'étirent ou s'aplatissent, est-ce que c'est le résultat des simulations ou est-ce que aussi c'est basé sur des observations?
Ce qui doit
pas être simple d'ailleurs.
Excellente question. Donc bien sûr, je suis pas rentrée dans le détail là, j'avais pas le temps aujourd'hui. Il y a certains de ces effets qui sont des faits observationnels. Par exemple, la ségrégation en masse, les morphologies des galaxies. Tout ça, c'est des faits observationnels qu'on a observés depuis très longtemps. Donc ça, parce que c'est des effets qui sont importants, donc on arrive à les voir. Après, il y a des effets plus subtils. Donc, par exemple, le fait que l'axe de rotation des galaxies soit aligné avec la toile cosmique, c'est un effet qui est en fait bien plus subtil. Déjà parce que mesurer des axes de rotation de galaxies, c'est pas facile. Et puis en plus, parce que en effet, c'est un alignement qui n'est pas 100%. Toutes les galaxies ne sont pas exactement alignées avec les filaments, loin de là. Donc c'est un effet petit. Et depuis, voilà, ça fait quelques années qu'on pense qu'on a des indices observationnels qui vont dans cette direction. Donc il y a des détections qui ont été publiées dans des revues. Et voilà, c'est des choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui et qu'on commence à mesurer. Mais effectivement, ce n'est pas des faits aussi établis que, par exemple, la ségrégation en masse ou en morphologie qui, elles, sont là depuis des décennies.
Merci pour cet exposé très clair. J'ai une question très naïve, je ne suis pas physicien du tout. Dans une des premières diapositives, vous présentez une tarte avec des pourcentages, 5% de matière... Non, on n'a pas besoin de la représenter. 5% de matière visible, 25% de matière noire et 75 ou 70% d'énergie sombre. Vous les mettez dans les... Ce sont des pourcentages qui en tout feront 100%. Qu'est-ce qui, dans l'énergie sombre, permet de faire rentrer cette énergie sombre dans la tarte, des pourcentages?
Comment est-ce qu'on a mesuré exactement
est-ce
en
que
fait,
c'est
les
une,
pourcentages de cette tarte?
Une masse, c'est... Quelle est sa nature qui lui permet de la faire entrer, qui permet de la faire entrer dans les 100%?
Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant la quantité d'énergie sombre qu'on va avoir, la toile cosmique, elle va pouvoir se développer ou non. Par exemple, si on a beaucoup d'énergie sombre, donc vous voyez qu'on va avoir une expansion de l'univers très importante, en fait, la dilution va être telle qu'on ne va pas avoir le temps de former la toile cosmique et de former les structures telles qu'on les observe. Donc en fait, le fait d'observer des structures à certaines échelles, ça nous dit quelque chose sur la quantité d'énergie sombre, de matière que l'on doit avoir. Et donc en fait, pour pouvoir mesurer très précisément ces nombres, en fait, c'est principalement le satellite Planck et l'analyse du fond diffus cosmologique qui nous a permis d'avoir une mesure très très précise d'exactement quels sont les pourcentages de cette tarte. D'ailleurs, c'est possible que la tarte que je vous ai montrée ne soit pas exactement les bons chiffres avec les derniers résultats de Planck, mais bon, voilà. Mais donc en particulier, le fond diffus cosmologique, il nous donne... des chiffres très, très, très précis là-dessus.
Merci pour cet exposé fort intéressant. Moi, je pose une question de fond, c'est la question de la symétrie. Pourquoi est-ce que la toile, est-ce qu'on ne retrouve pas des motifs identiques un peu partout ou, enfin, même s'il y a des fluctuations au départ, ce que j'ai compris... mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de regarder de plus en plus loin? Il n'y a pas des motifs qui se répéteraient, ça serait facile, mais bon, qu'est-ce qui empêche que ça se répète, voilà.
Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'on fait un peu, on pourrait appeler ça de la tomographie, c'est-à-dire que quand on regarde loin, on regarde à des époques différentes. Et donc ce que nous, on veut comprendre, c'est comment la toile cosmique, elle évolue. Donc en fait, on veut dire, voilà, quand je regarde très loin, la toile cosmique, elle ressemble à ça. Quand je regarde un peu moins loin, elle ressemble à ça. Et donc ça, ça nous explique comment la toile cosmique évolue, comment peut-être, par exemple, la constante cosmologique, l'énergie sombre va évoluer dans le temps, ce qui est vraiment un peu le Graal, on va dire, aujourd'hui en cosmologie. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire. Après, quand on regarde dans une tranche de redshift, donc on regarde l'univers à un certain instant, un instant donné, là, effectivement, les propriétés statistiques de cette toile cosmique sont à peu près les mêmes partout à ce redshift-là. Donc bien sûr, il y a des fluctuations, on est en train de parler de stochasticité ici, hein, il y a des champs aléatoires. Donc il y a de l'aléatoire, mais les propriétés statistiques, l'information statistique, elle est cohérente à un certain redshift. Donc c'est ça qu'on veut mesurer. Et donc en fait, le fait de mesurer un volume le plus grand possible, donc d'avoir le maximum de données, ça va nous donner une précision justement sur la statistique à cet instant donné. Et c'est ça qui va nous donner de la précision sur les mesures cosmologiques qu'on va pouvoir faire. Donc plus on a des données, plus on va pouvoir mettre des contraintes fortes sur notre modèle cosmologique et sur potentiellement des anomalies à ce modèle cosmologique.
C'est-à-dire que s'il y a des anomalies, ça veut dire qu'on ne trouve pas des répétitions de motifs comme on voudrait les retrouver quelque part ou qu'on ne trouve pas ce qu'on trouver.
C'est que les propriétés de l'objet qu'on est en train de regarder ne sont pas en accord avec ce que le modèle prédit. D'accord. Notre modèle, il prédit une certaine évolution dans le temps. Si on n'arrive pas à retrouver cette évolution dans le temps, il va y avoir des anomalies qui ne pourront pas être expliquées par notre modèle et il faudra aller au-delà du modèle standard, en fait.
Bon, on a encore le temps pour deux ou trois questions, pas davantage. Je crois qu'on va...
Cette année, au Collège de France, les cours d'astrophysique seront sur les grandes structures. Et vous allez venir donner un cours, d'ailleurs.
Oui.
Et Dubois, il va venir montrer la super...
La simulation. Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est, et là, on aura une vingtaine d'heures de cours sur les grandes structures.
Exactement.
Pour ceux qui veulent...
Voilà. Et j'ai parlé aussi un tout petit peu de l'anti-âge gravitationnel. Et Raphaël Gavadi vous donnera aussi un cours complet, je crois, sur l'anti-âge gravitationnel à ce moment-là. Donc vous aurez vraiment un petit peu tous ces domaines.
J'ai compris que Euclide va à la fois imager et prendre des spectres. Hein.
Oui.
Et regarder le phénomène de l'anti... comment vous arrivez à choisir des champs où l'effet de l'anti est négligeable? Il y a toujours un effet de l'anti quelque part.
On ne cherche pas des champs où l'effet de l'anti est négligeable.
Non, mais est-ce qu'il y a des champs de comparaison? Par exemple, des champs où effectivement l'effet de l'anti, puisqu'il y a des amas très très visibles, est très fort. Est-ce qu'il y a à côté des champs où on se dit là, il y a, ce que l'on regarde, ce sont effectivement des régions du ciel, des régions de l'univers où les effets de lentilles gravitationnelles sont négligeables. On peut toujours soupçonner qu'il y a des effets de lentilles quelque part.
Oui, mais on en tiendra compte dans Euclide des effets de lentilles. On va en tenir compte. Hein, c'est des effets, ce qu'on appelle les effets relativistes en fait, dans ce cadre. Donc, pour la cartographie des galaxies, on va tenir compte de ces effets relativistes. Ça va être important. Ça commence à être dans les barres d'erreur de ce que l'on va observer. En fait. Donc on est obligé de tenir compte de cet effet partout. En fait. Il n'y a pas d'endroit où on peut le négliger.
Bonsoir. Déjà, bravo pour votre exposé. C'est pareil, c'était très clair. Merci beaucoup. J'ai noté que vous parliez de galaxies passives. J'étais persuadé qu'à partir du moment où il y avait des étoiles donc contenues dans les galaxies, elles vivaient, elles naissaient, elles mouraient, et que ça en créait d'autres de ce fait-là. Donc j'étais surpris de savoir qu'il y avait le concept de galaxies passives. Et donc ma question, c'est de savoir s'il y en a, on est capable de dire à un tel moment du temps, cette galaxie ne produit plus d'étoiles et est vouée à disparaître.
Donc en effet, oui, d'une galaxie à l'autre, on va avoir des galaxies qui sont plus ou moins actives. D'ailleurs, peut-être vous savez que en fait, si on regarde le taux auquel on forme des étoiles dans l'univers, ce taux il n'est pas constant dans le temps, par exemple. Donc on va avoir un pic de formation stellaire, des redshifts de 1 ou 2, je ne sais plus. Donc le taux de formation d'étoiles, ce n'est pas quelque chose qui est constant au cours du temps, ça change avec le temps. Et ensuite, d'une galaxie à l'autre, ça change. Et on pense, par exemple, que typiquement, des effets d'environnement peuvent expliquer le fait que les taux de formation d'étoiles vont varier. Donc ça fait partie de la zoologie des galaxies. On va avoir des galaxies qui vont former plus d'étoiles que d'autres. Par exemple, quand on va avoir une fusion de galaxies, il y a certaines fois où on peut avoir tout d'un coup ce qu'on va appeler tout d'un coup, la formation d'étoiles va être très, très importante et puis va redescendre. Donc tout ça, l'histoire de formation d'étoiles, c'est quelque chose qui est très fluctuant dans le temps, qui va vraiment beaucoup dépendre de l'histoire de la galaxie, en fait. À la fois de ses processus internes et puis des processus externes, comme j'en ai parlé ici, de l'histoire de fusion en particulier, de la façon dont la galaxie va assembler sa masse.
On prend une dernière question. Il y avait une main par là. Non ? Oui ? Posez votre question assez brièvement, rapidement.
Quand les mathématiques ont cessé leur puissance d'expression à une certaine échelle, est-ce que finalement, lorsqu'on change de champ, est-ce que ce champ-là n'est pas régi par l'aléatoire ?
Désolée, j'ai pas compris la question.
Moi non plus.
Peut-être on peut en discuter après, éventuellement.
Voilà, sur cette question énigmatique. je reviens.
Merci à vous.
Rendez-vous pour la prochaine conférence donc, qui aura lieu en novembre. Merci, bonne soirée.